serait quoi la définition d'un plouc? Avant, c'était facile, c'était celui qui parlait un gros patois devant celui qui maîtrisait un bon français. Aujourd'hui, ça serait peut-être celui qui parle un gros français devant celui qui maîtrise un bon anglais international. Mais on pourrait proposer que le plouc pourrait être aussi celui qui ne peut pas faire une phrase sans mettre deux anglicismes sous prétexte d'être vraiment un français dans le monde.
On est toujours le plouc de quelqu'un, mais depuis 30 ans, voire un peu plus, Yannick Jolin tient le haut de l'affiche avec des histoires, une langue et un accent bien de chez lui. Le poitevin dit aussi le poètevin ou le potevin. Bonjour Yannick Jolin.
Bonjour.
Vous dites comment?
Le parlange.
Le parlange, ouais. Alors ça c'est encore une autre version, ça veut dire quoi?
Parlange, c'est comme la parlure québécoise, quoi. C'est le nom de la langue dans ma langue.
Et c'est une langue Doyle.
C'est une langue Doyle.
Puisqu'il y a en France cette grande coupure.
Ouais, mais c'est une langue Doyle avec énormément de traits occitans. Puisque pendant longtemps, jusqu'au XIIe siècle, on a parlé occitan sur les terres du Poitou et de la Vendée aujourd'hui. Et de la Saintonge, bien sûr. C'est toute cette zone entre Loire et Garonne, vraiment, on est vraiment sur cette zone-là, qui est une zone intermédiaire entre les deux langues.
Et vous dites langue ou patois ou dialecte?
Bah, vous savez bien que le patois est une chose dévalorisante, qui a été vraiment définitive depuis l'abbé Grégoire en 1794, quand la Révolution française coupe le monde en deux, ceux qui parlent le français universel, porteurs de ces valeurs universelles, et tous les autres qui baragouinent des dialectes divers et variés.
Et en même temps, dans votre spectacle, vous revendiquez un peu comme plouc. Enfin, ayant été vu comme plouc, du moins.
Bien sûr, parce que le regard des gens sur moi, depuis que quand j'ai commencé, j'étais un conteur patoisant. Je n'aurais jamais dû survivre en milieu hostile, dans les canons de la beauté esthétique culturelle française. Je n'aurais jamais dû résister. Et alors, parce que on peut venir voir de l'exotisme, hein, quand on va voir un conteur africain, quand on va voir un conteur de n'importe quelle origine, comme ça, c'est toujours bien. Un Québécois. Ah, c'est beau cet accent, alors.
Mais celui qui parle parlange, ça, c'est moins beau.
Ben, le parlange, en plus, oui. Ouais, parce que la France a toujours aimé ce qui venait, l'exotisme de l'extérieur. Mais l'exotisme de l'intérieur, ça a toujours cette dimension réactionnaire. C'est peut-être dû aussi aux années Pétain, qui s'est beaucoup appuyé sur cette France éternelle des terres, des territoires, des terroirs. Mais en France, dès qu'on s'exprime avec une différence sur ce territoire, il y a quelque chose de l'ambiguïté, il y a quelque chose du soupçon de réactionnaire.
En tout cas, donc, vous dites langue orale. Il n'y a pas vraiment d'écriture.
Il y a eu des écritures depuis. Alors, il y a eu des périodes très fastes. Hein, le 16e, 17e siècle ont été des périodes de grande écriture. Simplement, nous, on n'a pas eu, comme dans plein de pays de langue orale, une graphie unifiée. Elle a été unifiée il y a une vingtaine d'années, mais elle n'est pas utilisée, bien sûr que non.
Donc, langue minoritaire, mais vous dites en même temps, Yannick Jolin, c'est ma langue mondiale.
Oui.
C'est de la provoque.
Bah oui, mais c'est toujours parce que de notre histoire intime, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours en parlant de ma petite affaire à ma, d'aller rejoindre le monde. Et c'est vrai qu'en défendant cette singularité, cette chose magnifique qu'est une petite langue de rien du tout, je défends aussi la multitude de ces 6800 langues encore à l'œuvre dans le monde, dont certaines parlées par quelques poignées de gens.
En tout cas, c'est attirant de vous entendre parler parlange, parce que vous dites que c'est un anxiolytique. Ça détriste, j'ai adoré ce mot-là, détrister.
Mais parce que, comme il dit, ma langue, elle est absolument inutile. Elle n'a pas de valeur d'échange, pas de valeur d'usage. Juste, si, peut-être l'usage du plaisir qu'elle provoque au niveau de Madornama est une langue qui me fait plaisir, et je compare ça au texte de Barthes sur le plaisir du texte, où il dit à quel point, quand on lit un beau texte, on a quelque chose qui rit dans le ventre. Ben moi, ma langue, elle existe peut-être juste pour ça, parce qu'elle rit dans le ventre, parce qu'elle n'a pas de valeur politique. Je dis aussi que ma langue est une bâtarde, elle n'a pas de père. Dans les langues, c'est le père qui donne les armées, les frontières et la langue unique. Et moi, ma langue, elle a gardé en plus toutes ses variétés dialectales. Il n'y a pas eu de politisation de la langue, donc de sanctification, donc de standardisation.
Et c'est pour cette raison, pour la faire entendre et pour la vivre, que vous avez décidé de monter sur scène il y a une trentaine d'années, d'être conteur. Aujourd'hui, vous vous dites performeur, parce que j'imagine qu'il y a un peu d'anglais dans le parlange.
Absolument. C'est juste parce que, comme c'est une langue qui est mal jardinée, faut bien importer des mots. Donc, comme je peux pas pomper du grec, comme faisait la France au XVIe siècle. Donc je pompe plutôt de l'anglais.
Alors, deux spectacles aujourd'hui à l'affiche disent votre histoire, Yannick Jolin, et votre singularité. Causer d'amour et Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour. Deux spectacles pour hisser le drapeau de cette langue, ce qui ne vous empêche pas de citer des proverbes arméniens.
Ah oui, c'est ce proverbe que j'aime tellement qui dit « À chaque fois je parle une nouvelle langue, à chaque fois, je deviens plus un homme. »
Yannick Jolin sur RFI, accompagné pour De Vive Voix par Isia. C'est notre sélection musicale, nouvel album Citadelle. Et bref extrait, Trop vite. Extrait du nouvel album d'Isia sur RFI, du rire aux larmes, des émotions, des sensations. Yannick Jolin, on n'est pas avare dans ses spectacles. Causer d'amour et Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour. Sur une affiche, c'est long quand même. Hein. Vous avez peut-être le premier prix du titre le plus long, non?
Non, mais il y a pas mal de gens qui se contentent de lire les titres des spectacles plutôt que d'y aller. Comme ça, au moins, ils ont déjà appris quelque chose.
Alors, en tout cas, si je vous prends au pied de la lettre, vous avez un peu l'amour dépressif, hein, si on parle d'amour pendant quelques secondes quand vous parlez de vous.
C'est pas l'amour dépressif, mais c'est que j'ai dû faire fouiller mes entrailles, quoi. Donc fouiller. Les deux spectacles sont liés vachement à l'enfance, à tout ce qui se construit dans le temps de l'enfance. Donc autour de ma langue maternelle, qui était le parlange, parce que moi j'y parlais de même longtemps, jusqu'à 10 ans, 11 ans, vraiment tout le temps. Il y avait aussi ce monde rural où l'amour ne se dit pas, hein, l'amour, les mains ne se touchent pas, il y a très peu de tendresse, très peu, et une fabrication pour moi dans une famille nombreuse où l'amour promis n'a pas été donné, quoi, où il a été donné pendant un an puisque j'étais le premier fils, et puis après ça a disparu, ça a construit chez moi des manques que je vais essayer d'analyser, forcément.
Et que vous racontez dans ces spectacles. En même temps, le mot amour est un mot compliqué, d'autant qu'il n'y en a qu'un seul en français.
Mais oui, ce qu'il dit.
On aime tout.
J'aime ma vache ou j'aime ma femme, c'est pareil. Et je dis que, par contre, chez les Peuls, comme la vache est le bien le plus précieux, on peut dire ça. Sauf que chez les Peuls, quand on dit j'aime mon chien, on se fait interner direct. Parce qu'en français, il n'y a pas de censure sur le fait de j'aimer n'importe quoi.
Mais dans le monde rural, on peut dire j'aime ma vache et j'aime ma femme. Enfin,
oui,
on se souvient de Chirac qui disait j'aime les chevaux, le cul des vaches, et puis j'aime les chevaux et celles qui les montent. Donc voilà, il y a des équivalences dans la pensée même française. Des mots, en tout cas, vous dites quoi? Que vous les aimer, que vous les dévorez. Qu'est-ce que vous dites des mots, Yannick Jolin?
Qu'il est matreuil, qu'il est... que les mots, pour moi, c'est la matière première des histoires. Et c'est vraiment ce que j'avais beaucoup aimé au tout début. Et je disais, quand les gens me disaient, mais on comprend pas tous tes mots, mais je dis, mais tu sais, en français, souvent, on dit les mêmes mots et on ne se comprend pas. L'intérêt, moi, en utilisant des mots de ma langue, c'est que c'est de la matière à imaginer. Bachelard parlait de la force psychotropique des mots. Il disait cette capacité qu'ont les mots à faire des images dans la tête des gens. Si on comprend pas leur sens exact, on comprend l'émotion qu'ils dégagent. Et moi, c'est ça, ça m'intéresse.
Il faut toujours du clair-obscur, de toute façon, même dans une langue.
Bien sûr, parce qu'il faut cette part de mystère pour que, d'abord, on puisse se faire sa propre idée. Nous, sur une scène, vous croyez que les gens nous écoutent tout le long d'un spectacle? Bien sûr que non. On génère avec des phrases, des voyages intérieurs, et les gens s'échappent et n'écoutent pas tout.
Mais vous préférez, j'imagine, le français de Rabelais à celui de Racine.
Bien sûr, forcément.
Vous avez beaucoup joué Gargantua.
J'ai joué Gargantua.
Enfin, joué, lu, dit, oui, je sais comment on dit, compté.
Oui. Ben oui, parce que la langue de Rabelais était une langue qui n'avait pas de limite à l'embaucher des mots de tout ce qui était la possibilité linguistique des peuples de France à l'époque. Et après, ça a été nettoyé au XVIIe siècle. On a purifié cette langue pour en faire une langue aristocratique, ce qu'elle est devenue, cette langue du monde qui a été enviée par les puissants du monde pendant longtemps.
En tout cas, votre histoire, Yannick Jolin, conjugue amour de la langue et amour tout court. C'est ce que vous racontez dans votre spectacle.
Dans la chambrée de la maison d'enfants où j'étais, il y avait un gars qui avait 15 ans. Moi, j'en avais 12. J'avais les hormones qui débutaient leur bouillonnement. Mais lui, c'était effrayant. Et grâce à une bonne maîtrise de langue française, il racassait une des monitrices qui était magnifique dans les douches. J'ai entrevu les infinies possibilités que pouvait me procurer une bonne maîtrise de la langue française. Et donc, je suis tombé amoureux immédiatement de la langue française et de la fille de la directrice qui s'appelait Hélène. Et à Hélène, il aurait voulu lui dire tout un tas d'affaires, mais tout ce qui me venait dans la goule, on me venait dans ma langue. Donc il aurait voulu lui dire tout un tas d'affaires, il voulait lui dire « il t'aime qui ?»« Qui ?»« Il t'aime, Hélène !»« Qui ?»« Mais il t'aime, il !» Parce que dans ma langue, « il » veut dire à la fois « je » et « nous ». « Qui ?» J'ai préféré laisser tomber et je suis passé au français. Sauf que, depuis, à chaque fois que je dis « je t'aime » à une femme, j'ai toujours l'impression de jouer dans un film.
Yannick Jolin, c'est vrai cette histoire d'Hélène ou c'est juste le plaisir de la fiction?
C'était mon premier amour à la Bourboule, bien sûr. Et c'est vrai qu'à l'époque, pour moi, l'approche de l'amour était un mystère. Alors, est-ce que c'est le lien à ce « i » qui, pour moi, est assez fondamental, cette espèce de chose qui est un reste d'occitan. D'ailleurs, c'est le « yéhou » occitan qui est devenu « i », qui veut dire à la fois « je » et « nous ». Et cette appartenance au groupe, qui est très forte, par exemple, en Vendée, on voit bien, c'est communautaire. Il y a un côté très communautaire dans des pays comme ça. Et la difficulté de s'affirmer soi dans une communauté, et donc de se définir soi aussi dans l'amour, pour moi, ça n'était pas facile.
Et vous avez arrêté de dire « il t'aime » ?
Non, je le dis à mes enfants maintenant.
Et ils vous le disent ?
Oui.
C'est ce que vous racontez aussi dans le spectacle ?
Oui, absolument.
C'est à la fin du spectacle. Donc cette histoire-là de « il t'aime Hélène », c'est au début, et à la fin, vous racontez que votre fille vous dit « il t'aime fort papa ».
Oui.
C'est un cercle.
C'est la transmission. Et c'est cet espoir, non pas de transmettre une langue, parce que je pense que la mienne a pas beaucoup de chances de survie, mais s'il reste ce qu'on appelle un français régional, c'est-à-dire des mots utilisés, on utilise au quotidien, les Nantais, les bourgeois nantais utilisent ramasse bourrier, sens, sans savoir que c'est du poids de vin.
Mais quand je dis ça fait cercle, c'est l'émotion qui revient comme ça à la fin du spectacle, mais c'est aussi le principe même de narration du conte, la circularité. Parce que si il y a bien quelque chose du conteur chez vous dans ce spectacle, spectacle qui peut ressembler à une conférence ou qui peut ressembler à une performance, là je vous cite, c'est bien la circularité du récit.
Ben oui, parce que le récit, pas, pour qu'il y ait récit, il faut qu'il y ait un manque au départ. Et on s'en va pour chercher une plénitude. C'est ça la quête d'un conte en général, c'est aller vers soi-même. Donc ce spectacle-là est forcément un conte, un chemin initiatique à travers la langue.
Vous parlez autant de vous que des histoires collectées, il y a comme ça des fragments de vie racontés, que d'histoires avec un grand H ou de politique, parce que finalement, tout ce qui sous-tend le spectacle, c'est de dire qu'une langue peut être un instrument de domination. Et que vous êtes, vous, en situation de résistance, en fait.
Oui, bien sûr, comme dans plein de pays, comme les Québécois sont avec la diglossie, la double diglossie, c'est-à-dire une soumission, eux, avec une langue qui est empêtrée entre l'anglais et entre le français de France. Et ils sont persuadés que leur langue a de la valeur, mais en même temps, ils sont quand même un peu soumis à un pouvoir économique avec l'anglais et à un pouvoir culturel avec le français international.
Mais ce que vous racontez, on le raconte pas forcément dans les cours d'histoire, par exemple, que 2 millions de Français, simplement parler français au moment de la Révolution.
Ça, c'est assez étonnant.
C'est vrai, ça ?
Ah, c'est absolument vrai. Ce sont des chiffres exacts. C'est-à-dire 26 millions de Français à l'époque parlaient les autres langues de France. Et les élites n'avaient aucune envie que le peuple français apprenne le français. Parce que ces élites, c'était l'aristocratie et l'administration royale qui avaient un pouvoir énorme et qui l'a conservé d'une certaine façon, justement en mettant des anglicismes aujourd'hui dans ce qu'on lit parfois de l'administration centrale, qui est ébouriffante de bêtises et de complexité, quoi.
Mais vous dites qu'une langue peut être dangereuse, une langue vivante. C'est pour ça qu'ils ont été éradiqués, c'est pas toi ?
Bien sûr, parce que c'est des outils politiques, parce que autour de la Révolution française, l'idée de la langue unique, c'était de dire, on va rassembler le peuple autour d'une langue, que ça va être notre liant. Il y a une peur, mais viscérale en France, des républicains, des laïcs, que ces langues, ces patois, soient une manière de faire des failles dans l'unité nationale. C'est pour ça qu'on a tellement eu peur des Basques, et bien sûr que en Nouvelle-Calédonie, qu'en Haïti, qu'aux Antilles, à La Réunion, puisque je cite pas mal La Réunion où je suis allé, et où 85% des enfants parlent le créole en arrivant à l'école, et on ne s'appuie pas sur leurs connaissances, on ne s'appuie pas sur leur savoir, on essaie de leur imposer un français qui leur est étranger pour qu'ils soient vraiment les fils de la République. Mais on peut aussi envisager le bilinguisme. On n'a jamais envisagé ce bilinguisme comme étant naturel sur les terres de France. On devrait être tous bilingues.
Du français aujourd'hui, vous dites aussi que c'est une langue de tête.
En plus, on a un vrai problème, nous, avec le français, parce que le français est une langue mentale, quoi. C'est une langue de la tête, quoi. C'est une langue du concept. C'est une langue qui a du mal à descendre dans les mollets. On voit bien que quand on la parle, c'est pas une langue qui descend jusqu'au... C'est pas... La preuve ! La Marianne dans les mairies, elle descend jusqu'où ? Elle a pas de zézette ! Marianne a pas de zézette ! Pour ça que les élites françaises, eh ben, elles descendent pas... Ils ont du mal à trouver la terre. Dès qu'ils sont plus en haut dans la hiérarchie, plus ils ont du mal à trouver la terre. Et quand t'as pas de terre, tu pètes les plombs. Tous les électriciens savent ça.
Extrait de « Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour ». Donc Yannick Jolin, se couper de sa langue maternelle, c'est un peu se couper les jambes, si je poursuis l'image.
Sans doute pas pour ceux qui ont une très bonne maîtrise de ce français des élites, bien sûr que non. Mais pour les autres à qui on impose ce français, qui n'auront jamais tout à fait les codes, qui n'ont pas été hérités, parce que je pense qu'une langue, en plus, il y a Bourdieu disait ça très bien dans la reproduction des élites, hein, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui transmet au-delà des mots, c'est d'un savoir utiliser ces mots-là. C'est pas parce qu'on...
En devenant conteur, vous saviez qu'il y avait là à la fois une dimension politique et peut-être un chemin un peu long en tant qu'artiste ?
Oui, parce que ça a été... Moi, je suis un fils de l'éducation populaire. Je suis né dans une association qui avait été créée par un type venant de la guerre d'Algérie, où on lui avait fait collecter des chansons de femmes berbères. Et il revient en disant, on nous fait faire ça pour justifier notre présence coloniale, mais nous-mêmes, sur notre territoire, on n'a jamais fait l'inventaire de la culture paysanne, des cultures de tous ces gens qui nous sont proches, nous environnent. Et comment donner la fierté aux enfants d'une terre si on ne leur donne pas l'histoire de leur pays ? Donc forcément que je savais cela. J'étais sans doute un peu innocent quand je me suis lancé après dans le spectacle vivant. J'avais pas forcément compris que, comme dirait Gaston Miron, le poète québécois, à talent égal, on est toujours un poète inférieur dans un pays, dans une langue dominée, quoi.
Mais vous le regrettez ?
Non, parce que finalement, ça me va très bien. Je pense que autrement, j'aurais été trop petit coq. Mon nom, Jolin, ça veut dire petit coq. Hein. Mmh. Donc, j'aurais sans doute été mangé par l'orgueil si j'avais trop réussi.
Bah, vous avez quand même pas mal réussi, parce que vous êtes un des grands noms de ce qu'on a appelé en France le renouveau du conte dans les années 80-90.
Oui, mais ça reste à la marge. Et en plus, nous, de par notre histoire française, justement parce que le conte vient de l'oralité, il ne fait pas partie de la culture officielle et de la culture dite noble. Beaucoup moins qu'au Québec. Au Québec, un Fred Pellerin, par exemple, il a une dimension nationale au sens québécois, parce que là-bas, il y a toujours eu cette langue et la seule qui a été fabriquée sans les élites, puisque toutes les élites étaient parties. C'est le seul français populaire fabriqué comme ça, par le peuple, pour le peuple.
Vous parliez de bilinguisme. Quand même, la situation a évolué. On pense davantage multilinguisme aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Comment vous voyez-vous l'évolution de ce rapport à la langue dominante et aux langues minoritaires en France, en tout cas?
Alors, en France, je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience très forte là-dessus, hein, sur la nécessité même des bilinguismes. Alors, on va vers des bilinguismes nobles, là aussi, hein, donc j'en parle un petit peu aussi. C'est vrai que aujourd'hui, tout le monde veut que son enfant soit bilingue français-anglais, bientôt français-chinois. On va vers les langues qui sont utiles. Les langues inutiles, pourtant, elles ont leur valeur. C'est vrai que les gens qui mettent leurs enfants dans les calendrettes en pays occitan, dans les écoles d'Iwan en Bretagne, pour presque un tiers de ces gens-là, ce n'est pas pour qu'ils aient vraiment le breton ou l'occitan, mais c'est parce que de toute façon, l'apprentissage d'un bilinguisme dès le départ, c'est une manière de fabriquer un esprit qui sera capable d'aller vers les autres langues par la suite.
Alors dans votre spectacle, Yannick Jolin, vous parlez pas mal d'immigration. Parce que justement, là aussi, dans ce dossier-là, si j'ose dire, la question de la langue est absolument essentielle. On demande aux immigrés de parler la langue du pays dans lequel ils s'installent.
C'est
donc
ça.
De se couper un peu.
Oui, mais surtout, nous, on est incapable de faire du don contre don. C'est-à-dire de se dire, on va accueillir ces gens et reconnaître leur savoir, et reconnaître leur culture, reconnaître leur potentiel. Quand je vois ces gens multidiplômés qui arrivent de Syrie et à qui on dit qu'ils ne seront capables que de faire du lavage de toilettes chez nous, parce qu'on n'a pas envie même de reconnaître ce qu'ils sont. Il y a quand même quelque chose là qui, au principe de notre langue unique, de la valeur de nos diplômes, notre éducation nationale, parce que moi, à Pôle emploi, on m'a dit, vous savez, si on les prend comme analphabètes et illettrés, c'est parce que l'éducation nationale nous dit que ça n'a aucune valeur. Donc, il n'y a pas de responsabilité totalement définie là-dessus. Mais vous voyez, il y a quelque chose là de notre incapacité à reconnaître la beauté de celui qui vient chez nous. Et ça m'embête.
Vous sentez un peu un immigré en France? Vous avez eu ce sentiment, en tout cas, Yannick Jolin, à un moment dans votre vie?
Oui. Ouais, parce que ce regard un peu, je donne cet exemple de cette copine qui est venue me voir à la sortie d'un spectacle en me disant, mais Yannick, tu vas bien passer à autre chose avec le talent que tu as. C'est-à-dire, il fallait que j'arrête d'utiliser mon patois dans les spectacles parce que ça donnait un petit côté un petit peu inférieur. Elle aurait bien aimé que je sois un artiste de vrai talent en utilisant la vraie langue, quoi.
Un immigré en France ou un pinson sur son arbre?
Ah oui, vous savez bien que j'aime bien les pinsons.
Très belle histoire que celle du pinson, donc l'oiseau que vous racontez dans votre spectacle Causer d'amour.
Alors, sous l'apparence d'un petit passereau, le pinson cache une remise en cause du patriarcat avec les deux piliers qui sont l'exclusivité sexuelle et la monogamie. Vraiment, hein ? Pour votre patriarcat, faut être sûr de qui est le père. Donc chez les pinsons, c'est formidable parce que... Alors d'abord, ils parlent pas le même dialecte, suivant les zones où ils habitent, hein, les pinsons. Par contre, ils se mettent toujours en couple, deux qui ont le même dialecte. Au printemps, ils choisissent un territoire. Le mâle, tous les matins, se met à chanter pour préserver le territoire. Et pendant ce temps-là, la femelle, elle va à tire d'aile pour aller dans des endroits où on parle pas le même dialecte et elle va jauler avec des pinsons de toutes sortes. Elle va faire ce que disent les ornithologues avec beaucoup de pudeur, elle va faire des échanges de gènes. Et là, pas besoin d'apprendre les langues étrangères pour des rencontres fortuites comme ça. Pierre vient, elle pond, et le mâle au-dessus, avant que les œufs ne soient éclos, il chante. Il chante pendant qu'elle couve les œufs. Il chante, et puis après il chante aussi la première semaine après l'éclosion, parce que la langue, ils vont l'apprendre à ce moment-là. Ils n'oublieront jamais. Et là se pose vraiment le problème de la paternité. Qu'est-ce qui est le plus important? Transmettre ses gènes ou transmettre sa culture?
Yannick Jolin, la question de la langue, est-ce que c'est aussi une question écologique?
Oui, Alors c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, surtout depuis que j'ai découvert, par exemple, le travail d'une jeune femme en Nouvelle-Calédonie qui fait une association qui s'appelle Ikapala, qui travaille justement sur la préservation des plantes et des langues autochtones. Elle fait un lien très net, et c'est un lien qu'on voit un peu partout dans le monde se faire, entre la préservation de la biodiversité et la préservation des langues. Parce que dans les langues, actuellement, la richesse des savoirs médicinaux sur les plantes est beaucoup tapie dans les langues minoritaires. Donc il y a quelque chose de la richesse du monde qui est gardée par ces langues-là.
Mais les langues sont toujours le reflet des activités des hommes qui les parlent.
Bien sûr.
Une population d'éleveurs a beaucoup plus de mots pour parler d'élevage que un Français bureaucrate.
Absolument.
Par exemple.
Absolument.
Dans votre parlange, quels sont les secteurs où les mots sont les plus riches, les plus vivants, les plus joyeux, les plus généreux?
Ben, vous avez bien vu que sur la sexualité, il y a plein de choses assez drôles quand même. On parle d'une sexualité, mais un peu comme ça, un peu imagé, quoi. Hein. C'est pas concret, mais c'est imagé. Mais aussi par exemple sur la pluie qui tombe. Alors là, vraiment, il y a des dizaines de mots pour dire le boyard, la sagnaï, Nabadev, et quand on l'avrite, la petite pluie d'avril qui tombe mais ne touche à peine le sol. Quant aux brimaces, il y a des dizaines de mots comme ça.
Ouais. Ça en dit long sur la météo dans le Poitou, non? Alors en tout cas, transmettre sa culture, c'est ce que vous faites sur scène, Yannick Jolin, mais c'est ce que vous faites aussi à Pougne-Hérisson. Alors où est Pougne-Hérisson?
Alors,
quelque part dans le monde,
mais pour être plus précis, c'est situé en Deux-Sèvres, donc dans l'ancien Poitou, à l'est de la Vendée. Donc c'est géographiquement entre Nantes et La Rochelle, un peu plus à l'est.
Et c'est le nombril du monde.
C'est un des nombrils du monde, puisqu'on est le siège de l'Association mondiale des nombrils du monde. Donc on est lié avec Ayers Rocks, Cusco, l'île de Pâques, tout un tas d'autres nombrils du monde, puisque dans toutes les grandes traditions du monde, il y a un lieu qui est le nombril du monde, c'est-à-dire un lieu souvent assez élevé, où les humains se rassemblent pour relier le ciel et la terre. Et Pougne-Hérisson est le nombril du monde parce que toutes les histoires du monde sont parties de Pougne-Hérisson au moment de ce qu'on appelle le Big Bang mythologique.
Dit-il très sérieusement.
Absolument. Nous, on a les preuves.
Et depuis un peu plus de 30 ans, vous organisez donc un festival tous les étés à Pougne-Hérisson.
Plus qu'un festival, on a un jardin sonore où on vient écouter des contes, on vient écouter de l'oralité justement, et on reçoit 4000 gamins qui viennent pour travailler justement, là encore de la transmission, travailler sur le conte, l'imaginaire, parce que je pense que c'est au niveau de l'enfance que ça se fabrique aussi.
Et à travailler sur l'oralité, j'ai quand même le sentiment que l'oralité prend de plus en plus de place dans nos cultures aujourd'hui. Je ne sais pas si l'oralité et le conte ont conquis leur lettre de noblesse, mais comme ça, la simplicité du contact devient presque une urgence ou une nécessité en 2019.
On n'a jamais eu autant de la chance avec le numérique, avec la possibilité justement de faire des films, des vidéos, pour transmettre par exemple les langues qui n'ont pas été écrites ou qui ont du mal à être écrites, transmises de cette façon-là. On a une chance extraordinaire. Et je me dis qu'en Afrique aujourd'hui, avec la diversité dialectale linguistique qu'il peut y avoir en Afrique, le numérique est une chance incroyable pour pouvoir transmettre ça. Parce que les langues uniques, c'est une histoire politique. Et quand on veut transmettre une langue qui n'a pas de visibilité politique, la seule façon aujourd'hui, ou la belle façon, ou la nouvelle façon de faire, c'est le numérique, les vidéos, YouTube et compagnie, allez-y.
Et donc on peut enjamber l'écrit.
Absolument, absolument. Et justement, peut-être que les scribes qui ont pris le pouvoir depuis la Mésopotamie vont enfin baisser la garde et laisser un pas à peu à nouveau à l'oralité et au griot des temps modernes.
Donc nous sommes au début d'une révolution.
Yes.
Merci Yannick Jolin. Vos spectacles « Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour » puis « Causer d'amour » sont à découvrir au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris jusqu'au 26 octobre. Et pour ceux qui ne pourraient pas venir, il y a des captations de vos spectacles en livre audio que l'on trouve où?
On les trouve sur le site de la compagnie, mais on peut aussi voir en vidéo tous les spectacles qui ont été faits depuis 15 ans. Ils sont sur via mon site, on les trouve sur Vimeo après, ils sont visibles même à l'autre bout de la terre.
Donc toutes les infos sur votre site et sur la page de l'émission RFI.fr et bien sûr la page Facebook. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain.